Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Les envolées de Bossuet dans l'éloge funèbre prononcé à l'occasion des funérailles de la belle princesse Henriette d'Angleterre, épouse de Monsieur, frère de Louis XIV, sont dans toutes les mémoires et finissent son histoire avec grandiloquence, mais avant sa fin tragique. Le 30 juin 1670, elle avait connu la reconnaissance du roi et quelques succès. Simone Berthière nous raconte les derniers bonheurs d'Henriette. Madame ne se console pas d'avoir perdu l'amour du roi, et elle ne se console pas de n'être pas reine. Elle est l'épouse du second personnage de l'État, pâle reflet de son aîné, condamné à faire de la figuration. Elle-même pâtirait de cette mise en veilleuse si la reine avait de l'éclat. Mais l'effacement de Marie-Thérèse lui donne sa chance. Elle s'applique à remplir les fonctions dont celle-ci se révèle incapable. Comme vedette des fêtes de cour, comme protectrice des arts et des lettres, elle s'inscrit dans la tradition des reines brillantes et cultivées, telles qu'on les aimait au XVIe siècle. D'autre part, en tant que sœur de Charles II d'Angleterre, elle peut prétendre au rôle d'intermédiaire officieux, qu'avait rêvé d'exercer avant elle, en vain, une Éléonore d'Autriche ou une Catherine de Médicis. Son frère, en lui proposant un commerce épistolaire régulier, a souhaité qu'elle soit le témoin et la caution commune de son amitié pour Louis XIV. Mais confrontée à des intrigues de cour et à de violentes querelles domestiques, ne voulant renoncer à rien de ce qui fait le sel de sa vie, elle ruine lentement sa santé dans cette lutte, jusqu'à la nuit désastreuse que rendra mémorable l'éloquence de Bossuet. Après les grandes vacances de l'été 1661 à Fontainebleau, la cour prend son régime de croisière et s'organise. Les rôles se distribuent. Marie-Thérèse, presque toujours enceinte, se voit interdire toute activité physique pour prévenir les blessures. Elle ne participe qu'en spectatrice à la plupart des divertissements. D'ailleurs, elle n'a ni don ni goût pour la danse et déclare forfait à la suite d'un unique essai. Quant à régner sur les lettres, il ne faut pas y songer. Les maîtresses, celle du moment, la Vallière est douce et timide, la suivante, Montespan, est trop occupée à écarter sa rivale pour songer encore à régenter la cour. En tout état de cause, le rang de madame la met très au-dessus des deux jeunes femmes. Il y a une place à prendre, une fonction à remplir, pour lesquelles elle est seule qualifiée. Dans ce rôle de suppléante, faisant fonction de reine, elle éclipse la détentrice du titre et peut rêver un instant qu'elle est la véritable souveraine. Elle figure aux côtés du roi lors des fêtes et des festins qui marquent le passage d'éminents visiteurs étrangers. C'est avec elle qu'il ouvre le bal. C'est elle qu'on admire. C'est d'elle qu'on se souvient. Lors de la visite du prince héritier de Danemark en 1663, Marie-Thérèse immobile, parée comme une châsse, 6 millions de bijoux, dit-on, la regarde tristement tournoyer avec grâce sous les regards éblouis de l'assistance. Dans les grands ballets de cour, la substitution des rôles est encore plus flagrante et elle frappe d'autant plus que les auteurs de livrets, en général Isaac de Benserrade, se livrent à un jeu subtil d'analogie entre les personnages mis en scène et les acteurs qui les incarnent. Comme dans la vie, évolue derrière Henriette la troupe de ses suivantes. Lavallière, Montespan et même à l'occasion Françoise de Sévigné qui lui servent de faire valoir. La danseuse étoile et le corps de ballet. Elle occupe avec le roi le centre de la scène. Les chorégraphies les associent comme partenaires. L'intrigue, bien souvent, comme amoureux. Dans le ballet des arts de 1663, il est un berger, elle est une bergère, qui n'aime rien que son devoir, ses moutons et son chien, mais dont les yeux, à faire mourir les dieux, font bien des ravages. Elle sera bergère encore et Pierida avec Apollon, dans celui des Muses en 1667, et surtout, en 1665, dans le fameux ballet de la naissance de Vénus, dit « ballet de Madame », parce que conçu par elle et inauguré chez elle. Non seulement elle incarne Vénus au début, mais dans un grand duo central, le roi est Alexandre et elle est Roxane, la princesse de Perse, épouse du héros qui lui donnera un fils. On ne saurait être plus clair. Le rêve se fait réalité, le temps d'un ballet. Elle avait également d'autres prétentions. Dans l'épisode du ballet des arts consacré à la guerre, elle était Pallas, dite aussi Athéna, déesse de l'intelligence, et le texte rendait hommage à son esprit. Cultivée, aimant la littérature, romans et théâtres surtout, elle devient vite l'arbitre du goût et la protectrice des écrivains. L'on croyait avoir atteint à la perfection quand on a su lui plaire. Ses préférences ont aux yeux des mondains valeur de verdict. Tous les auteurs les plus brillants tremblent en portant leur talent au fameux polissoir de sa belle ruelle, constate en vers de Mirliton le gazetier Robinet. Elle est Molière et le soutien contre les attaques des bien-pensants. Elle est la dédicataire de l'école des femmes et la marraine de son fils aîné. Elle applaudit à Tartuffe que la troupe vient jouer chez elle pour la consoler d'avoir manqué le spectacle à Versailles. Elle est l'une des premières à ressentir le génie du jeune Racine. La dédicace d'Andromaque lui rend hommage. Elle a donné son avis sur la conduite de l'action, a prêté ses lumières pour l'adjonction de quelques ornements, a honoré de ses larmes une lecture privée. Bref, la règle souveraine est de plaire à son Altesse royale. Succès garanti. Anne d'Autriche est morte. La jeunesse l'emporte. La première représentation, le 17 novembre 1667, dans l'appartement de la reine, est le triomphe d'Henriette, en même temps que celui de Racine, dans le conflit de génération qui couvait depuis 7 ans. Elle est l'arbitre, dit son protégé, de tout ce qui se fait d'agréable dans les lettres. Lorsqu'à l'automne de 1670, il donne Bérénice, dont elle avait suggéré le sujet, elle n'est plus là pour applaudir. Mais la partie est gagnée définitivement pour lui. Dans ce rôle de mécène, si brillamment rempli par Anne de Bretagne, Catherine de Médicis ou Marguerite de Valois, elle s'est à nouveau substituée à la reine. Mais sa réputation était compromise, côté cœur et côté cour. Le récit que Madame de Lafayette nous a laissé de l'inextricable écheveau d'intrigue dans lequel Henriette fut piégée n'est pas ce que la romancière a écrit de meilleur. Les fantoches dont il évoque les manigances dérisoires ont bien peu de consistance. Il est vrai qu'elle n'est pas libre. Elle écrit sur ordre et d'après les confidences de son amie, dont il s'agit, bien qu'elle s'en défende, de blanchir la réputation. Disons tout de suite que la méchanceté et la corruption, au demeurant très réelles, qui règne dans ce vase clos qu'est la cour, n'explique pas tout. La coquetterie et l'imprudence de madame sont en grande partie responsables de ses malheurs. Elle encourage ses soupirants, elle prise trop la provocation, l'insolence, elle se confie trop facilement, elle sait mal se faire respecter. À sa décharge, elle est si jeune et elle a tant besoin d'être aimée. On n'entreprendra pas de raconter ici, par le menu, ces intrigues gigognes qui s'engendrent les unes et les autres à l'infini. Tout commence avec la passion que lui porte le bel Armand de Guiche. Passion de tête, nous dit-on, calquée sur des modèles romanesques et dans laquelle les sens n'ont point de part. C'est possible, mais cette passion n'en est pas moins compromettante. Au contraire, elle s'affiche et se complaît dans les démonstrations extravagantes. Il inonde Henriette de lettres enflammées où il se dit prêt à braver pour elle le monde entier et à défier tous les obstacles. Monsieur, la reine-mère, le roi même qui l'égratigne de ses railleries, tout est permis pour faire un bon mot. Pour la voir, il se déguise en soubrette, en diseuse de bonne aventure, en laquais. À plusieurs reprises, on l'éloigne. Chaque fois, c'est un prétexte pour solliciter une entrevue. La dernière, naturellement, qu'elle a la faiblesse de lui accorder. Le mari débarque à l'improviste. On cache le soupirant dans la vaste cheminée avant tôt. Hélas, monsieur s'apprête à y jeter les pelures de l'orange qu'il vient de manger. Une suivante les lui prend des mains, jurant qu'elle adore grignoter les écorces. Une autre fois, c'est un domestique dévoué qui se rue sur monsieur sous prétexte de l'accueillir. Celui-ci saigne du nez, on s'empresse, on lui fourre un mouchoir sur le visage, tandis que l'amoureux en profite pour s'éclipser. Les farceurs qui s'exhibent sur les tréteaux du Pont-Neuf n'inventent pas mieux. Authentiques ou enjolivées, ces anecdotes sont si drôles qu'on ne peut résister au plaisir de les raconter. Elles circulent. Quelque chose en revient aux oreilles d'Anne d'Autriche qui met en garde son fils cadet, lequel se plaint à son frère. Madame se fait sermonner, promet de ne plus revoir Guiche jusqu'à la prochaine fois. Entre-temps, il n'y a pas moyen d'empêcher le galant d'écrire. Se greffent alors là-dessus les trahisons et les jalousies. Le meilleur ami de Guiche courtise Henriette en son absence à la grande fureur de sa propre maîtresse Olympe de Soissons. Ajoutez-y un accès de dépit amoureux entre les deux protagonistes, de fausses confidences, de sombres histoires, de lettres confiées à des dépositaires indélicats prêts au chantage, plus une nuée de soupirants subsidiaires tournant autour de la jeune femme et une avalanche de commérages. Vous aurez une faible idée de ce tissu d'embrouille. Autant d'ingrédients familiers aux auteurs de comédies d'intrigue, mais aucun d'entre eux n'aurait osé en coudre ensemble un si grand nombre. Henriette n'a décidément pas les pieds sur terre. Elle finit par s'inquiéter cependant lorsque commence à se répandre la mode des récits à clé sur les mœurs à la cour de Louis XIV. Bussy Rabutin, qui a de la sympathie pour elle, s'est gardé de la faire figurer dans l'histoire amoureuse des Gaules, qui lui a valu la prison. Mais les folliculaires de Hollande sont hors de portée de la police royale et le bruit court qu'il s'y imprime un libelle. Les amours du palais royal, une histoire merveilleusement bien écrite, dit l'abbé de Choisy, où madame se trouvait cruellement traitée et la passion qu'on prétendait qu'elle avait eue inutilement pour le roi y était tout au long. Elle fut tirée d'affaire par son dévoué aumônier Daniel de Cosnac qui réussit, à prix d'or, à faire stopper l'impression et à racheter avant mise en vente tous les exemplaires tirés, sauf deux, qui arrivèrent entre les mains du roi de France et de celui d'Angleterre. Just Médiatrice de deux rois, elle assure à Louis XIV ce à quoi il tient alors le plus, l'appui britannique contre la Hollande. De son côté, elle-même en sort grandie, réhabilitée, lavée de tous les ragots, beaucoup plus forte face à son mari. Elle rentre à Paris en héroïne, elle est de celles qui font l'histoire. Hélas, à cette gloire, elle ne survivra que deux brèves semaines. Elle avait bien travaillé. Louis XIV lui accorda un sursis. Au lieu des 3 jours convenus, elle passait à Douvres une bonne quinzaine, libre de tout souci, dans un climat très chaleureux. Le 12 juin, elle se sépare de son frère en pleurant. À Calais, monsieur n'est pas là pour l'accueillir et il a empêché le roi d'y aller. Elle rentre à petites étapes, fêtée tout au long du chemin. Le 18 juin, la voici enfin à Saint-Germain. Son époux est tout de même venu à sa rencontre, mais dès le lendemain, il s'offusque de ses 2 longs entretiens avec Louis XIV, dont il est exclu. Il s'irrite de sa gloire toute neuve. Il se fâche en apprenant que le jeune duc de Monmouth, contrairement à ses volontés expresses, a participé aux festivités de Douvres. Il sait le moyen de punir sa femme. La cour s'apprête à passer l'été à Versailles, il la privera de ce plaisir. Il n'y fait avec elle qu'une courte apparition avant de lui imposer le séjour de Saint-Cloud. Lors de cette ultime visite chez la reine, elle est si maigre et si pâle qu'elle a l'air d'une morte habillée à qui l'on aurait mis du rouge. Une semaine plus tard, c'est le drame. Nous le connaissons bien par Madame de Lafayette qui était sur place et par Mademoiselle de Montpensier qui y arriva avec la famille royale. Il fait très chaud. Henriette se baigne, en dépit de douleurs au côté dont elle souffre depuis 2 jours, et elle désespère de jamais rétablir avec son mari le moindre semblant de paix. Le lendemain, 29, entre 5 et 6 heures du soir, elle demande à boire. On lui apporte un verre d'eau de chicorée. À peine l'a-t-elle bu qu'elle s'écrie « À quel point de côté, à quel mal, je n'en puis plus !» Pliée en deux, elle s'affaisse. On la déshabille, on l'étend sur son lit. Elle sait déjà qu'elle va mourir. « Je ne serai plus en vie demain matin, vous le verrez, » dit-elle à son mari. Quand on essaya de l'alimenter en lui faisant avaler un bouillon, ses douleurs redoublèrent et la mort se peignit sur son visage. La nouvelle est parvenue très vite à Versailles. La reine se promenait, le roi soupait. « Si vous voulez me revoir encore en vie, » disait le message de madame, « hâtez-vous. Car si vous tardez, vous me trouverez morte. » Mademoiselle de Montpensier voulut se précipiter à Saint-Cloud. Marie-Thérèse hésitait, mais le roi survint et les embarqua dans son carrosse. Un bon contingent de courtisans suivit, dont La Vallière et Montespan. Lorsqu'ils arrivèrent à Saint-Cloud vers 11 heures du soir, les médecins avaient encore bon espoir et la chambre de madame devint le dernier salon où l'on cause. Le roi échangea quelques mots avec elle, puis, voyant qu'elle était perdue, il lui dit adieu en pleurant et il se retira avec la reine. Ne voyons pas là un signe d'indifférence, c'était la règle. Elle mourut vers 2h30 du matin, 9 heures seulement après avoir commencé à se trouver mal. Elle venait tout juste d'avoir 26 ans. Malgré les soupçons d'empoisonnement, tout laisse à penser que sa mort fut naturelle et que si elle avait réchappé de l'atteinte digestive, la tuberculose pulmonaire qu'elle avait n'aurait pas tardé à l'emporter. Mais les rumeurs ont la vie dure, surtout quand elles sont orchestrées par un écrivain de génie comme Saint-Simon. Grâce à lui, via divers intermédiaires, puisqu'il n'y était pas, nous apprenons tout. Le nom de l'instigateur, Lorraine, celui des exécutants, deux mignons de monsieur, Défia et Beuvron, celui d'un valet de chambre complice, la manière dont on empoisonna non pas la carafe mais le verre réservé à madame, l'enquête que mena le roi au sujet de son frère, le savait-il ? « Non, sire, répondit le valet, aucun de nous trois n'était assez sot pour le lui dire, il n'a point de secret, il nous aurait perdus. » Soupir de soulagement, voilà tout ce que je voulais savoir. Le XVIIe siècle ne possédait pas les moyens d'investigation dont nous disposons aujourd'hui et l'on comprend que Louis XIV ait eu peur, d'autant qu'il risquait la rupture diplomatique si Charles II croyait sa sœur assassinée. Il fit donc tout pour mettre le maximum de baume sur le cœur du souverain anglais. Ainsi s'explique l'exceptionnelle solennité qu'il donna aux cérémonies funèbres à l'honneur d'Henriette. Contrairement à l'usage qui veut que le roi évite les lieux où se trouve un mort, il se dérange en personne, ainsi que la reine, pour saluer le corps et l'asperger d'eau bénite. Il fait prendre un grand deuil à toute la cour, comme pour un roi ou une reine de France. La pompe funèbre à Saint-Denis donne lieu à un faste spectaculaire à grand renfort de draperies noires, de flambeaux et de cierges, avec de grandes figures symboliques en marbre blanc, allégorie des vertus de madame. L'étiquette lui interdit d'y assister lui-même, mais il a tenu, chose tout à fait insolite, à y envoyer la reine incognito. Henriette eut droit à trois oraisons funèbres. Une par Mascaron lors du dépôt de son cœur au Val-de-Grâce, une à Saint-Cloud par le chanoine Feuillet, l'une à Saint-Denis par Bossuet, la plus célèbre. En voici quelques extraits. Monseigneur, j'étais donc encore destinée à rendre ce devoir funèbre à très haute et très puissante princesse Henriette Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans. Ô vanité, ô néant, aux mortels ignorants de leur destinée, l'eût-elle cru il y a 10 mois ? Princesse, le digne objet de l'admiration de 2 grands royaumes, n'était-ce pas assez que l'Angleterre pleurât votre absence, sans être encore réduite à pleurer votre mort ? Et la France, qui vous revit avec tant de joie, environnée d'un nouvel éclat, n'avait-elle plus d'autre pompe et d'autre triomphe pour vous au retour de ce voyage fameux, d'où vous aviez remporté tant de gloire et de si belles espérances ? Vanité des vanités, et tout est vanité. C'est la seule parole qui me reste, c'est la seule réflexion que me permet dans un accident si étrange, une si juste et si sensible douleur. Non, après ce que nous venons de voir, la santé n'est qu'un nom, la vie n'est qu'un songe, la gloire n'est qu'une apparence. Les grâces et les plaisirs ne sont qu'un dangereux amusement, tout est vain en nous, excepté le sincère aveu que nous faisons devant Dieu de nos vanités et le jugement arrêté qui nous fait mépriser tout ce que nous sommes. Nous devrions être assez convaincus de notre néant, mais s'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup comme dans un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle. Madame se meurt, madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait désolé sa propre famille. Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts. On trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout, on entend des cris. Partout, on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Madame a passé du matin au soir, ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait. Avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous la vîmes sécher. À la cour, la jeune femme fut très regrettée. « La cour et le royaume ont perdu leur plus bel ornement », écrit l'ambassadeur de Savoie. « Et les dames ne sauront plus où se faire voir, car la reine ne tient quasiment pas de cercle. Il n'y a plus de vie de cour. Ça n'a été depuis sa mort, dit la Fare, que jeu, confusion et impolitesse. » Marie-Thérèse fut-elle soulagée de la voir disparaître ? Une comparaison entre son sort et celui de madame aurait pu la convaincre que s'il est malaisé d'être reine, il est encore plus difficile et hautement périlleux de prétendre faire la reine sans l'être. La pauvre Henriette y a perdu la paix intérieure, la santé et la vie. France Guimard Roche reviendra à Versailles pour vous offrir une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.